Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons The Last Express, Daiku no Gensan, Tiger Road, un dossier sur la super cassette Vision, Radiant Silver Gun, et la deuxième partie de la démo Amiga du groupe Chieftains intitulée Guardian Dragon 2. Bienvenue sur Rétrovision. Je sais que j'ai un peu tendance à me répéter, mais je suis toujours aussi content de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de la saison 2012-2013, avec encore une fois une programmation bien éclectique. On débute avec un excellent jeu d'enquête intitulé The Last Express, sorti en 1997 sur PC. The Last Express a été réalisé par Jordan Mechner et l'action prend place dans le légendaire Orient Express, peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. Le 27 juillet 1914, Robert Katt, le personnage que l'on incarne, monte à bord de l'Orient Express ralliant Paris à Constantinople, aujourd'hui appelé Istanbul. Recherché par toutes les polices françaises, Katt est suspecté de la mort d'un policier irlandais et il doit rejoindre son collègue Tyler Whitney à bord du train, ce dernier voulant lui montrer un objet très particulier. Une fois arrivé dans la cabine de son ami, il découvre le cadavre de celui-ci, le visage lacéré, et c'est à cet instant qu'il entreprend de se faire passer pour Whitney et de découvrir qui est responsable de sa mort. La première chose qui frappe vraiment dans la réalisation technique, c'est le côté art nouveau des graphismes, issus de captures d'acteurs en mouvement utilisant une animation rotoscopique pour donner cette impression de mouvement qui aurait été bien trop compliquée à faire en 24 images secondes.
Bonsoir monsieur. We have a nice table for you here in the cockpit.
Ensuite, l'élément phare du jeu, c'est que toute l'action se déroule en temps réel. C'est-à-dire que même si vous ne faites aucune action, la vie à bord du train continuera son cours et les personnages effectueront les actions qu'ils ont à faire comme dans la vraie vie. Il va donc falloir se creuser les méninges pour savoir quoi faire et surtout le faire au bon moment. Le fait d'être dans un environnement en temps réel peut dérouter le joueur lors des premiers essais. Mais il enrichit l'aventure avec un réalisme impressionnant pour l'époque et cela renforce, selon moi, le sentiment d'implication dans la résolution de l'enquête menée par le personnage que l'on incarne.
Oui, madame.
Cette fois-ci, ça suffit. Il faut faire quelque chose avec ce chien.
Je suis désolé, madame. Madame a été...
Alors sans utiliser trop de superlatifs, sinon on n'y arriverait jamais, je dirais que The Last Express est un jeu d'aventure exaltant, avec ses défauts et ses qualités. Mais il possède un scénario quand même très profond et une ambiance qui ne laisse pas indifférent.
Ladies, gentlemen, if you would all please move out of the dining car and return to the sleeping car.
Monsieur, cielos, I demand it to be told what's happening.
Monsieur, please, it is for your own safety.
Si vous voulez essayer un jeu rétro qui sort vraiment de l'ordinaire, et si vous aimez les enquêtes policières évidemment, Rétrovision vous recommande ce titre, unique en son genre, et c'est ce qui fait tout son charme. Daiku no Gensan, plus connu sous le nom de Hammerin Harry, est un jeu d'arcade édité par IREM en 1990. À première vue, le scénario est plutôt original, car il met en scène un habitant bien ordinaire confronté à un entrepreneur véreux souhaitant faire un maximum de plus-value après avoir acheté toutes les maisons du quartier. Refusant de vendre, Harry va retrouver sa maison complètement démolie par des ouvriers de l'entreprise de la Rusty Nail. Au lieu d'appeler l'agence touriste, Harry décide de se faire justice lui-même et d'en découdre avec ses crapules. Muni d'un maillet super solide, Harry est capable de frapper en avant et de dévier tous les projectiles qui lui sont balancés. Ce même maillet peut être utilisé défensivement pour bloquer ce qui pourrait lui tomber sur la tête. Il est aussi possible de frapper violemment le sol afin de faire trembler celui-ci et de ralentir les ennemis. Les caisses de couleur verte contiennent des bonus très utiles rendant la progression plus facile, car elles sont situées dans des endroits stratégiques là où il y a des passages plus corsés. Même s'il a la réputation d'être difficile, la maniabilité est tellement bonne et précise que ce n'est qu'une question de temps pour arriver à boucler le jeu. Il n'y a rien d'insurmontable, surtout lorsque l'on connaît la réputation qu'ont les jeux vidéo de cette époque. Les décors traversés sont, vous vous en doutez, uniquement des chantiers de construction et on se rend vite compte de tous les dangers qu'il peut y avoir dans ce genre d'environnement. Crochets, grues, plaques de métal, briques, ciment, sacs de sable, tout peut être utilisé comme une arme redoutable et le moindre impact vous fait perdre une vie. Mais heureusement, il y a des checkpoints. Armoring Harry est un excellent jeu de plateforme action, bien réalisé, très amusant et pas prise de tête. Encore une fois, Irem s'est surpassé pour ajouter un grand hit à son palmarès déjà bien rempli. D'ailleurs, cette longue saga remporta un vif succès au Japon avec de nombreuses suites, essentiellement sur les consoles Nintendo. Ah voilà un autre petit classique, Tiger Road, un jeu de plateforme action édité par Capcom en 1990. Intitulé Tora e no Michi au Japon, ce titre a connu un grand succès dans les salles d'arcade et a été logiquement adapté sur de nombreuses machines, dont la PC Engine, d'où sont extraits ses séquences vidéo. Vous incarnez Lee Wong, un moine spécialiste en arts martiaux qui a quitté son temple après que son grand maître lui ait confié une quête importante, anéantir l'abominable Ryu Ken-ho. Inspiré des légendes chinoises, Tiger Road nous propose des décors exotiques, même si les environnements sont très classiques. Cavernes, forêts, montagnes, forteresses, avec des ennemis qui arrivent de tous les côtés et en grand nombre. La maniabilité du personnage est un peu particulière car elle ne semble pas vraiment tenir compte de la pesanteur, comme s'il était tenu par un fil pour pouvoir sauter à des hauteurs vertigineuses. Vous trouverez sur votre chemin de nombreux bonus en brisant des statuettes d'or et des paquets cadeaux rouges renfermant des armes comme une lance avec une portée plus longue, une hache ou un fléau d'armes beaucoup plus puissant. Capcom nous a gratifié d'un jeu solide, maniable et bien old school en matière de difficulté. Cette adaptation sur la PC Engine leur a permis de faire quelques changements esthétiques par rapport à l'arcade, mais dans l'ensemble, la réalisation est toujours au top niveau. Un bon titre donc, à réessayer, surtout si vous aimez les défis corsés assez basiques. Époque, société spécialisée dans les jeux électroniques LCD, fabriqua dès le milieu des années 70 ses premières consoles dérivées de Pong. Mais c'est à l'été 1981 que sortit leur première console à cartouche interchangeable, la Cassette Vision. Malheureusement, le succès n'arrivant pas, Époque décida donc d'enclencher la vitesse supérieure. C'est ainsi qu'apparut en juillet 1984 la Super Cassette Vision. Véritable évolution par rapport à son aîné, la SCV affichait des graphismes plus fins et plus colorés grâce à une sortie vidéo RGB et pouvait jouer des voix digitalisées. Son design simple et épuré permettait de ranger les deux manettes en son sein pour ne pas laisser traîner les câbles. Malheureusement, les deux manettes en question sont directement reliées à la console sans possibilité de les débrancher, ce qui causait quelques soucis quand l'une d'elles rendait l'âme. À la manière de l'Intellivision ou de la ColecoVision, la SCV disposait d'un pavé numérique sur son unité centrale permettant de sélectionner le nombre de joueurs et la difficulté en une simple touche à l'écran titre du jeu. Bien qu'essentiellement destinée au marché nippon, la console fut vendue dans un seul autre pays, la France, grâce à la société coréenne ITMC qui conclut un accord avec Epoch pour vendre la console dans l'Hexagone sous la marque Yeno. La machine ne disposera en tout que 30 titres assez variés, dont certaines grosses licences populaires comme Nebula, Boulder Dash ou Pole Position 2, ainsi que d'animés tels que Doraemon, Lupin the Third et la toute première adaptation vidéoludique de Dragon Ball. La Super Cassette Vision fut la dernière tentative de Epoch dans l'élaboration de consoles. Depuis, la société s'est recentrée sur des valeurs plus sûres, la fabrication de jouets et de jeux électroniques, ainsi que l'édition de quelques jeux vidéo. Sorti en 1998 sur la superbe Saturn de Sega, Radiant Silvergun est un shooter vertical réalisé, édité, programmé et étudié par Treasure.
サムは人手が足りないんだからクローンを導入すべきですよ
クローンか技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが
Avant de commencer une partie, il est possible de choisir entre le mode arcade et le mode Saturn. Ce dernier comporte un scénario intéressant ainsi qu'une plus grande durée de jeu. Vous contrôlez un vaisseau au design aérodynamique, muni d'un arsenal impressionnant, puisque ce n'est pas moins de 7 armes qui sont disponibles par défaut. Je vais essayer de vous expliquer rapidement l'armement. Les boutons A, B, C correspondent respectivement au Vulcan, au Ming et au Spread. Les boutons X, Y, Z, quant à elles, sont associés au Homing Plasma, Back Wide et le Lock on Spread. La septième arme, quant à elle, est le fameux Radiant Sword, bouton R de la manette, qui a pour effet de déclencher deux épées qui balayeront l'écran et vous rendra invincible pendant cette attaque. Pour cela, il faut absorber un minimum de 10 boulettes roses. Il existe un système de chaînes qui consiste à détruire 3 ennemis de la même couleur. Les points continueront à augmenter à chaque multiple de 3. Le masque de collision est tout petit puisqu'il est situé au niveau du cockpit et en plus la prise de risque est récompensée si vous frôlez les tirs adverses ou une partie du décor vu que les ailes ne sont pas destructibles. Les boss sont particulièrement coriaces, comme souvent dans les productions de chez Treasure, et doivent être détruits si possible en terminant par le cockpit, de manière à avoir encore une fois un bonus de destruction de 100%. Tout comme Alien Soldiers, Radiant Silver Gun est un titre étudié sur la progression. Plus vous allez pratiquer et comprendre les subtilités du gameplay, plus vous allez aimer y jouer et repousser votre niveau de jeu. Évidemment, l'une des subtilités est de maîtriser parfaitement toutes ces armes et de les utiliser stratégiquement et au bon moment en fonction des boss et du type de niveau traversé. Radiant Silver Gun est d'une profondeur rarement atteinte dans un shoot 'em up. On pourrait en parler pendant des heures et des heures tant les subtilités sont nombreuses. Et en plus, les musiques sont carrément magnifiques. Il associe plusieurs éléments de gameplay comme le puzzle, le scoring, un système de chaîne et l'amélioration de l'armement. Il est considéré par la communauté comme l'un des meilleurs shooters de tous les temps et c'est un titre phare de la Saturn se négociant à plusieurs centaines d'euros sur Internet. Et voilà, c'est déjà la fin malheureusement de ce 9e épisode de Rétrovision, comme c'est triste. Mais on se retrouve dans quelques semaines pour le dernier épisode, ça aussi c'est triste, de la saison 6. Va-t-il y avoir une autre saison à la rentrée, c'est-à-dire la 7e ? Pour l'instant, la question est posée et c'est en suspens. On va réfléchir pendant les grandes vacances. Mais une chose est sûre, s'il y a une 7e saison, elle va être pas mal modifiée. Mais pour l'instant, place à la démo Amiga, la deuxième partie de la démo Guardians Dragon 2, sortie en 91 du groupe Jeff Renz sur Amiga. À très bientôt et on se donne rendez-vous dans quelques semaines sur Rétrovision. Salut!
ます。